Chers frères et sœurs, il est possible de faire des dizaines de prédications sur ce passage biblique si connu des croyants et des non-croyants. Et je pense que vous en avez d'ailleurs suffisamment entendu pour être vous-même capable de pouvoir faire une ou deux prédications sur ce texte. Néanmoins, j'essaierai quand même d'ajouter encore une parole à toutes les paroles que vous avez entendues en essayant de prendre un angle. Sans vouloir évidemment épuiser ce texte, j'aimerais entendre ce qu'il peut nous dire à partir de la question de la nudité. J'aimerais que nous portions notre attention sur le fait qu'au départ, la nudité ne fait pas honte, puis qu'elle fait honte, pour essayer de comprendre ce que ce texte théologique nous révèle. Alors tout d'abord, partons de ce moment où la nudité ne pose pas de problème. Il y a dans ce récit un moment de l'histoire qui constitue une situation que nous avons certainement tous en notre fort intérieur, secrètement, jugée idéale à un moment de notre vie. C'est lorsque le personnage Adam se trouve nu et qu'il n'en a pas honte. S'il existe quelques communautés d'hommes et de femmes qui ont décidé de vivre nu en toute tranquillité, il convient tout d'abord de remarquer que c'est une attitude assez minoritaire de nos jours, et surtout qu'il est quand même difficile de vivre ce qui pourrait être une sorte d'idéal de manière universelle. Rien que dans notre sud, pourtant assez chaleureux, aujourd'hui n'est pas une journée très propice pour nous balader tout nus. On ne peut pas dire que la nudité puisse être une caractéristique universelle, ne serait-ce que pour des raisons climatiques. D'un point de vue pragmatique également, venir au culte dans la tenue d'Adam, ce serait aussi courir le risque de se retrouver avec quelques écharpes dans la chair, ce qui évidemment pourrait satisfaire les Pauliniens qui prendraient à la lettre le fait que lui-même disait qu'il avait une écharpe pendée dans la tête. La chair, sans que ce soit pour des causes de culte naturiste. Ceci pour dire que ce dont il est question dans ce texte biblique n'est pas la nudité physique, a priori, parce que cette nudité physique n'aurait pas un caractère universel. La nudité qui ne fait pas honte au moment de cette histoire biblique, c'est la nudité existentielle. C'est-à-dire le fait d'être soi, de manière authentique, sans masque, sans maquillage, sans avoir besoin de dissimuler quoi que ce soit de notre vie. Ce moment de l'histoire peut nous faire rêver parfois, notamment lorsque nous en avons quand même un peu assez de jouer un rôle social, ou pour le dire avec la formule de Jean-Paul Sartre, lorsque nous en avons assez de jouer au garçon de café. Ce moment de l'histoire peut nous faire rêver lorsque nous en avons assez d'être gentils, au sens de bon, au sens de trop bon, avec un B comme dans cacahuète. Ce moment de l'histoire peut nous faire rêver lorsque nous n'en pouvons plus de ce monde avec cette complexité, avec ses problèmes à gérer, avec ses conflits humains à pacifier. Ce moment de l'histoire peut nous faire rêver lorsque nous sommes en quête d'une vie simple, dénuée de tout ce qui nous enquiquine. Et nous pourrions finalement caresser ce rêve de vivre comme ceux qui s'appellent les Adamites. Les Adamites sont ces personnes qui essaient de vivre comme Adam. Non seulement la nudité, mais aussi ne pas se couper les poils de barbe, les cheveux, à vrai dire, ne pas se laver non plus, et ainsi de suite. Vivre dans le dénuement le plus grand qui soit, la vie simple de manière radicale. Alors, la question que je me pose, c'est la suivante. Faudrait-il regretter ce moment de l'histoire qui, pour beaucoup de chrétiens, semble constituer l'âge d'or de l'humanité? Devrions-nous tous espérer cela de la manière la plus forte qui soit. Pour ma part, ce moment de l'histoire ne me fait pas revivre. À titre personnel, je n'ai aucune envie, par exemple, d'incarner le personnage du film de Sean Penn, Into the Wild, qui s'inspire notamment de Henry Thoreau, ce retour à la nature qui, finalement, conduit à la mort du personnage, parce qu'en voulant retourner à la nature, en fait, il retourne à l'état sauvage et il meurt du manque de soins. Moi, cela ne me fait pas rêver. Alors, j'aimerais que nous penchions maintenant sur ce moment de l'histoire où la nudité fait honte. Parce que souvent, quand on lit cette phrase, on se dit que ça, c'est le mauvais moment de l'histoire. Et ce revirement de l'histoire est souvent compris comme ce moment où il y a une chute. L'homme chute. C'est le moment où l'humanité est sur son déclin. Alors, soyons bien clairs. Tout d'abord, le texte biblique n'utilise pas le mot chute qui a si souvent été utilisé au sujet de ce texte. Ce texte biblique n'utilise pas non plus le mot péché, dont il a été si souvent question au sujet de ce texte. Et pour ce qui me concerne, je ne parlerai certainement pas de ce texte en termes de récit de la chute de l'homme ou récit du péché originel. Si ce n'est par la force des baïonnettes, mais il faudra monter jusqu'ici. L'opinion populaire considère que ce récit, à ce moment de l'histoire, décrit la chute de l'homme suite à ce qu'elle pense être un péché originel dont la honte serait le signe, le symptôme. Mais pensons à ce que signifie la honte. Essayons de penser la honte comme un phénomène. Est-ce que la honte, c'est absolument négatif? Faut-il se scandaliser d'avoir honte, par exemple, quand on a commis des actes de regrette, quand on a proféré des paroles malheureuses? La honte. Ne pourrait-elle pas avoir quelques vertus? Par exemple, la vertu de nous faire prendre conscience qu'une situation n'est pas vraiment satisfaisante et qu'elle mérite notre intervention pour que nous apportions quelques changements nécessaires. Faut-il vraiment avoir honte de la honte? Moi, je constate que, bien au contraire, la honte peut être salutaire, dans la mesure où elle participe à notre prise de conscience quand une situation exige que nous réagissions pour ne pas laisser les choses en état. Et après tout, le jour où nos adolescents commencent à avoir un peu honte de l'état de leur chambre, c'est quand même plutôt gagné. C'est qu'ils viennent de faire un premier pas dans la vie d'adulte. La honte est peut-être bien ce qui participe à notre prise de conscience qu'il y a des conversions à opérer dans notre vie. Alors, qu'en est-il d'Adam et de la femme? L'idée que nous en faisons, avant de nous replonger dans ce texte, est qu'ils ont mangé l'arbre de la connaissance du tov et du ra, souvent traduit par le bien et par le mal. Ce qui, d'ailleurs, conduit à une compréhension morale. Ils auraient fait une faute morale. Mais ces termes seraient plus compréhensibles s'ils étaient traduits par vivable, d'une part, et par malheureux, d'autre part. Lorsque Dieu est réputé avoir créé en 6 jours un monde dans lequel l'homme peut exister, chaque jour est scandé par cette phrase « Et Dieu vit que le monde était tov ». Ce n'est pas qu'il était bon au sens moral, surtout quand il n'y avait pas d'être vivant, c'est qu'il était tov au sens de vivable. La vie était en capacité de pouvoir s'y épanouir. Et ce que nous dit ce texte, c'est qu'une fois que ce fruit a été symboliquement consommé par Adam et la femme, ils se rendent compte qu'ils sont nus. Jusque-là, ils ne s'en étaient pas rendus compte. C'est comme s'ils ne se voyaient pas au fond. C'est comme s'ils étaient transparents l'un à l'autre. Jusqu'à ce moment de l'histoire, Adam et la femme étaient comme invisibles, en fait. C'est ce que nous dit ce texte. donné, ils se sont rendus compte qu'en fait, ce n'est pas le cas. Ils ne sont pas invisibles. Et ils ont honte. Ils ont honte et ils se cachent. Ils se cachent derrière des feuilles d'un figuier, ils sont en fond de ceinture, un pagne. Et ils se cachent, en fait, le texte hébreu ne dit pas au milieu des arbres du jardin. Le texte hébreu et la traduction grecque à cette honte disent ils se cachent dans l'arbre, au milieu de l'arbre, au milieu d'un arbre du jardin. Soyez en passant, il y a un arbre qui est au milieu du jardin et qui est à la fois l'arbre de vie, vous l'avez entendu au verset 9 du chapitre 2. Et puis vous avez entendu aussi que l'arbre dont il ne faut pas manger selon ce que dit la femme, c'est celui qui est au centre du jardin. Ça fait quand même beaucoup d'arbres au centre du jardin. Et du coup, la question se pose, que nous raconte ce texte? Soit ces deux arbres ne font qu'un, et dans ce cas-là, quel reproche faire à Adam et à la femme? Soit la femme a confondu, et au fond elle parlait de l'arbre de la vie au lieu de parler de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et du coup qu'est-ce que cela signifie? Qu'Adam et la femme n'ont pas mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils ont mangé du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, et cet arbre, c'est l'arbre de la vie. Alors restons calmes sur l'histoire de la chute et du péché originel. Dans les deux cas, où est le problème? Il n'y a aucune transgression de l'ordre divin, puisque c'est forcément l'arbre de vie qui a été consommé en fait. Si nous suivons le texte. Alors, peut-être serait-il bon d'être un peu plus calme sur l'histoire du péché originel et de péché qui se transmettrait charnellement de génération en génération. Même si nous faisons une lecture littérale du texte, il n'y a aucune substance qui pose problème dans ce texte. Mais revenons à la honte des personnages. Que traduit-elle indépendamment du fait d'avoir croqué un fruit? J'en viens à la troisième partie. Après avoir constaté qu'il y a un moment où la nudité ne fait pas honte, puis qu'il y a un moment où la nudité fait honte, j'aimerais vous montrer que le temps est venu pour l'être humain de devenir un être moral. Et pour cela, j'aimerais convoquer le philosophe Platon, avec un passage de son deuxième livre sur la République. C'est le moment où il raconte l'histoire d'un berger qui s'appelle Gyès, qui trouve un anneau sur lequel il y a un chaton. Et quand il passe cet anneau sur le doigt, et qu'il met le chaton à l'intérieur de la main, alors il devient invisible. C'est le mythe de l'invisibilité. Invisibilité dont je vous ai dit qu'elle était finalement une des situations de ce récit du Jardin d'Éden. L'anneau de Gyès pourrait nous faire rêver, devenir invisible. Ça aussi, on a tous rêvé. Pouvoir être invisible, pourquoi faire au fond? Pour faire ce qu'il ne faudrait pas faire. Être invisible pour faire des choses dont on aurait honte si on était visible. Être invisible pour mettre entre parenthèses le fait que notre vocation est quand même d'être un être moral. Et des fois, on en a un peu ras la casquette d'être un être moral. L'invisibilité pourrait être le plus grand de nos rêves. La Bible fait en sorte que ce soit le pire des cauchemars possibles. Cauchemar au sens où il ne faudrait pas trop en rêver parce que la possibilité de l'invisibilité, c'est finalement la possibilité de pouvoir faire des crimes et des délits en toute impunité. L'invisibilité, c'est ce qui nous permettrait de devenir irresponsable. Et ça, pour les textes bibliques, c'est ratat, c'est péché. Pas touché. N'importe qui, utilisant les réseaux sociaux de nos jours, sait à quel point les personnes qui communiquent derrière des pseudonymes, derrière des identités cachées, s'autorisent des paroles que, par exemple, le pasteur James Wood ne peut pas s'autoriser. Sinon, que penserait-on de lui, de l'église protestante, etc. Mais par contre, ceux qui ont un pseudo s'autorisent les pires crimes en toute impunité, en tout sentiment d'impunité, car toujours retrouver leur trace si on y prend un peu de temps. A contrario, nous savons à quel point la présence d'une personne, d'une caméra, d'un micro influence les réactions de quelqu'un. On se souvient qu'il y a quelques années, d'un ministre de l'Intérieur qui n'avait pas vu qu'il y avait un micro et qui s'était autorisé quelques propos sur les Auvergnats ou sur d'autres personnes. Ce que nous faisons tous, ça, d'ailleurs. Et dès qu'il y a la présence d'un étranger, d'une personne que nous ne connaissons pas, alors nous retrouvons la respectabilité de l'acte moral. Et notre cerveau, notre inconscient, notre conscience, nous dit la censure qu'il faut s'imposer. Cela provient que la présence d'autrui change notre comportement. Le fait que nous ne soyons pas transparents change notre comportement lorsque nous sommes face à quelqu'un. Et cela conduit chacun à faire attention à ce qu'il dit, à ce qu'il fait. Autrement dit, au bout du compte, cela conduit chacun à penser. À penser sa vie devant l'autre. Et voilà bien ce qui se passe à deux étages dans ce texte biblique. Tout d'abord, l'un devant l'autre, l'homme devant la femme, se rend compte qu'ils ne sont pas autre chose que des êtres nus, et ils se cachent. Puis, il y a une autre présence, la présence divine, qui, avec la brise du soir, s'intéresse à leur cas, et là, ils se cachent au milieu d'un arbre du jardin. Quand Adam et la femme ont-ils eu honte? Quand ils ouvrent les yeux et qu'ils voient la présence de l'autre. Cela se fait après que la femme a tendu un fruit à Adam. Cela se fait après qu'ils ont eu une relation interpersonnelle, dont le texte biblique ne dit pas du tout que c'est une question sexuelle. C'est la présence de l'autre qui est décisive. C'est elle le déclencheur. C'est elle qui fait de nous un être pleinement humain, au sens d'un être moral, qui est en mesure ou en devoir de répondre de son existence. C'est la présence de l'autre qui est décisive. C'est la présence de l'autre qui me ramène à moi-même, à ce que je suis et à ce que je dois avoir. Notons bien qu'il n'y a pas de jugement réciproque dans ce texte biblique. Aucun reproche n'est formulé. La femme ne reproche pas à Adam d'être Adam. Adam ne reproche pas à la femme d'être la femme. Mais chacun pour soi réalise ce qu'il donne à voir, ce qu'il a donné à voir, et cela le fait réagir. Comment les yeux s'ouvrent-ils? Par la présence de l'autre, par cette relation qui est en train de se tisser, ce que l'autre est en train de me fait ouvrir les yeux. Le fait de pouvoir ouvrir les yeux, de porter un regard sur l'autre et sur soi-même, nous conduit à pouvoir nous interroger sur nous-mêmes, sur notre relation à l'autre. Et c'est cela qui fait de nous un être moral. Quand les aumôniers protestants ont eu la responsabilité d'aller faire l'aumônerie pour les personnes qui, après la Seconde Guerre mondiale, étaient à Nuremberg pour procès et crimes contre l'humanité, certains aumôniers protestants qui ont fait vraiment leur travail ont découvert en fait que les personnes face auxquelles elles se tenaient n'étaient pas, au sens strict, des êtres moraux, car ils étaient incapables d'empathie. Ils étaient incapables de pouvoir intellectualiser ce que l'autre ressentait, éprouvait, vivait, subissait, endurait. L'autre était comme transparent. L'autre était comme invisible. C'est la présence de l'autre, avec de la consistance, avec de la densité, qui fait de nous un être moral. Ouvrir les yeux vraiment et prendre en compte notre environnement, cela fait de nous un être moral. Nous devenons un être moral à partir du moment où nous prenons conscience que nous ne sommes pas invisibles et que nous aurons à répondre à la question qui se pose désormais dans ce texte biblique, Adam, où es-tu? Où es-tu, toi? Et toi, là, où es-tu d'ailleurs? C'est une question qui se pose à chacun de nous et qui se reposera inlassablement. Ou pour le dire avec Martin Buber dans Le chemin de l'homme, où en es-tu? Comme toute parole de la Bible, la question est adressée à tout homme en tout temps. Dieu interpelle chaque homme. Où es-tu dans le monde? Et cette question n'est pas un jugement. C'est une question ouverte. Ce n'est pas un reproche dissimulé. C'est une question ouverte pour que nous prenions conscience de la place que nous occupons ou que nous n'occupons pas encore dans le monde. C'est la question qui est le moyen par lequel nous accédons à un degré supérieur d'humanité, en intégrant notre environnement dans notre équation personnelle et en n'étant plus nous-mêmes le point de référence. Où es-tu? Ça veut dire que ce n'est plus nous le référentiel. Nous sommes dans un lieu où nous ne sommes plus le centre de gravité. Le monde ne tourne plus autour de nous. Nous ne sommes plus le barycentre de l'existence. Le centre du jardin, je peux toujours y trouver ce qui me nourrira. Je peux même essayer de m'y réfugier. Mais le centre du jardin, ce n'est pas moi. Je ne suis pas le centre du jardin. Je ne suis pas le centre du monde. Je ne suis pas le point de référence. Nous devenons un être moral à partir de ce moment où nous nous sommes intégrés dans un vaste réseau de relations dont nous ne sommes pas le centre de gravité. La question de Dieu n'est pas à prendre sous l'angle du reproche. Parce que Dieu serait l'instance qui nous reprocherait de ne pas être là où nous devrions être. C'est souvent comme cela que le christianisme a compris l'existence chrétienne. Et cette fameuse prière de repentance et d'humilité dont je vous ai encore parlé tout à l'heure. Dieu désigne ce qui nous rend capables de nous décentrer un peu de nous-mêmes, pour ouvrir les yeux sur notre situation réelle, pour ouvrir les yeux sur notre environnement, sur les autres, de manière à ce que nous puissions ensuite nous orienter et trouver notre propre chemin pour la suite des événements. Et c'est ainsi que nous pouvons comprendre les paroles de Dieu au moment où Adam et la femme vont entrer dans l'histoire de leur propre vie. Souvent, on a compris ces paroles comme une punition. Ça sera dur, vous allez en baver, bien fait pour vous. Mais nous pouvons comprendre ces paroles bien autrement. Nous pouvons les comprendre comme les paroles de celui qui sait quelle est la difficulté de la vie et qui avertit celui qui va entrer dans la vie pour que la vie soit moins effrayante, moins impressionnante, plus familière. Bien sûr qu'il faut dire à nos plus jeunes que la vie est difficile. Sinon, ils vont être complètement désemparés. Et cela doit s'accompagner de la promesse d'un bonheur possible, d'une grâce toujours permise. Mais pas sans quelques difficultés à affronter. Pas sans quelques responsabilités à assumer. Pas sans quelques moments où nous aurons honte, effectivement, parce que nous ne sommes pas toujours au top. Mais cela n'est pas reproché par Dieu dans ce texte. Cela est simplement assumé pour que Adam et la femme puissent faire quelque chose de leur situation et reprendre la route de leur existence. Dieu ne punit pas dans ce texte. Dieu prépare l'humain à emprunter son propre chemin en connaissance de cause. Il sort Adam et la femme des ténèbres de l'inconnaissance pour qu'ils puissent trouver un peu de lumière et ne pas buter contre tous les obstacles de la vie. Dieu est ce qui nous incite à ouvrir les yeux pour ne pas vivre dans un monde rêvé, mais pour vivre nos rêves dans un monde réel.